Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou Tetoupa, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, on est le 17 mai et ce sera une émission spéciale Grand Prix avec notre envoyé Lamiche en direct depuis le Grand Prix de France au Mans. Il nous commentera le départ des Moto 3 là.
Ah, c'est déjà fait, hein. Moto 3
Moto 3. C'était à 11h.
Ouais, voilà.
C'est ça.
C'est parti.
Donc voilà, c'est parti. Il nous fera aussi un petit point à mi-course et puis bien entendu, l'arrivée vers 11h45 quoi.
Voilà.
Il sera également normalement au Moto 2 puisque le départ est prévu pour 12h20 je crois, donc avant l'émission. Donc on pourra vivre aussi en direct le départ des Moto 2. Pour réagir à ces commentaires, vous avez déjà entendu Nico, hein, spécialiste motard passionné de Grand Prix et spécialiste devant l'éternel. Autre motard passionné, nous avons aussi les frères Bonduel, permettez-moi pour une fois, hein, Claude.
Bonjour.
Salut Claude. Et puis Jean-Pierre. Dit Balou, bonjour président.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc vous pourrez réagir aux commentaires de notre ami Lamiche. On aura également un autre connaisseur, on va dire, du Mans, puisque c'est Nicolas Bonduel.
Un Bonduel.
Voilà, encore, c'est la journée des Bonduels aujourd'hui. Une belle brochette, si je puis me permettre. Et donc, qui va revenir sur sa participation aux 24 heures du Mans, où il a fini 37e et où il a fait combien, Nico? 690 tours.
696 tours.
Ah, c'est pas mal, hein, c'est joli.
Seul italien à l'arrivée, seul bicylindre à l'arrivée.
Formidable. J'en profite puisque je suis le moins expérimenté sur le sujet. Moi, je vais vous donner mes pronostics. Hein. Donc, je vous dis que en Moto 3, ça sera Quartararo, le français, hein, puisque comme il court en France, il aura des ailes qui vont pousser s'il pleut pas. Ensuite, en Moto 2, je vous dis que ça sera Zarco qui va gagner. Vous me direz, c'est pas très dur vu qu'il est en tête du classement, mais bon. Et en Grand Prix, je suis sûr que c'est Rossi. Vous verrez, ça sera Rossi s'il pleut pas. On en reparle tout à l'heure et notamment la semaine prochaine. Alors, on va pas parler que Grand Prix, on va aussi parler des motards qui organisent des manifestations. Et on aura François de la confrérie des Vieux Clous qui va nous parler de la manifestation, du rallye qu'il organise du 23 au 25 mai. Pour les motos d'avant 1960.
La semaine prochaine.
Voilà, tout à fait. On aura également Alain Défly, le président des Caïmans, qu'on devait avoir la semaine dernière. Et puis, comme il était en train de rouler, forcément, on n'a pas réussi à se joindre. Et qui, lui, va nous présenter les activités de son club. Et notamment, le départ pour Cape Todd Park, qui est prévu aussi bientôt, la semaine prochaine, je crois. Enfin, si le temps nous permet, mais normalement on devrait pouvoir le faire. On aura également Guy qui va nous téléphoner après. Et il est avec le Jean-Paul Ménager, le président du scooter Lambretta Club de France, qui organise leur 5e rassemblement ici, dans la région. C'est à Saint-Jean-Capelle, du côté du Mont-Noir. Il y a une centaine de machines quand même qui sont représentées. Voilà. Et pour être complet avec ce tour de table, je dis bonjour à Laurent Rodier.
Ouais, pourquoi tu donnes mon nom et je suis recherché, t'es con toi quoi.
À la technique, il y a la programmation musicale.
Et on fait un petit hommage à B.B. King. Voilà.
Ah, magnifique. Super.
Music played, I saw my lantern around. That was the day.
Et on trouve Lamiche en direct depuis le Grand Prix de France au Mans. Lamiche, t'es avec nous?
Oui, en direct, il vient de se passer. Le départ de Moto3 a été donné à 11h, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu un frac qui s'est passé sur les circuits, au moins 5 machines viennent de chuter. Là, je vais devoir vous couper parce que dans les deux secondes.
C'est là, en direct, hein. Il s'est fait écraser.
L'ami, je t'ai revenu.
Elles sont vachement longues, les secondes.
Pourtant, ils vont vite. Hein.
Non, mais c'est normal, ils se traînent aussi.
Je suis juste en face de la ligne des stands. Je vais vous donner un classement des années provisoires, hein, au bout de 5 tours. Le premier, c'est Pegetti. Le deuxième, c'est Antonelli. Et notre petit français Quartararo, hein, qui a été fait la pole. Je ne sais pas si vous avez suivi hier la grille, la position. Oui, on fait signe aussi qu'un autre français, 14e, c'est Jules Danilo.
Hey, notre petit Jules.
Notre petit Jules, Danilo, ouais. Notre petit Lillois, si on veut dire. Voilà. Donc actuellement sur les écrans, on peut voir, il y a beaucoup de chutes en Moto3 maintenant. Il se passe pas beaucoup de choses.
Il fait sec, Lamiche.
Alors, au niveau du temps, il fait 17 degrés à température, la piste est à 15 degrés, il fait 17 degrés, c'est un temps fantastique pour faire de la moto, pour faire de la compétition. Aujourd'hui, au Mans, il y a un public de fou, mais alors, je pense que le circuit est complet, donc l'organisateur va être très très content. Donc je continue à suivre donc le classement. Quartararo est toujours...
Troisième,
premier Senetti, deuxième Antonelli, troisième Quartararo.
Ouais, ouais. Vous
savez qu'hier, il s'est passé des choses, le leader, Danny Sen. Ah, c'est beau. Quartararo est deuxième.
Ouais, formidable.
La miche à fond dedans.
Français aujourd'hui en Formule 2-3, un pilote français qui va monter sur la première marche.
Je vous l'avais dit.
Non, on espérait bien.
Je vais vous donner l'écart. Il y a 0,55.
Ouais, il y a une demi seconde. Hein. Il y a une grosse demi seconde.
Il y a une demi seconde. Voilà. Et oui, effectivement, vous avez suivi
les essais rocambolesques avec la pluie.
Avec la pluie au deuxième tour.
Oui, hein, effectivement. Donc, le manager, hein, je vais reprendre mes notes, là. Le team manager de Quartararo a fait sortir Quartararo et aussi...
Navarro.
Son équipier Navarro, oui.
Son équipier Navarro, hein.
Oui.
Tout de suite, au début de la séance. Et il a bien fait, parce qu'en fait, au bout de deux tours, il a commencé à pleuvoir. Ce qui fait que les autres, qui ont attendu pour pouvoir commencer leur tour de qualif. En fait, on fait leur qualif sur le mouillé.
Un seul tour et se qualifier, du coup, parce qu'après, il n'y a plus et c'est irrattrapable.
Du coup, on retrouve le leader du championnat Moto 3, on le retrouve en
31e position.
Ouais, 31e, ouais, c'est dingue.
Effectivement. Et là, je vais vous dire, Kent, il est 10e actuellement. Kent, il est 10e.
Ah, il remonte, hein, quand même. Ouais, il remonte. Voilà.
Quand on regarde, effectivement, quand on regarde vraiment sur le circuit, voilà, trois tours, Pegetti premier, Quartararo. Ah, les gars, un peu augmenté entre Pegetti et Quartararo.
Ouais, ils sont roue dans la roue, hein. Ouais.
Bon, mais attention, il y a Kent, le leader au championnat, hein. Il est passé 9e.
Kent est passé 9e, ouais. Ouais. Il remonte tout doucement.
Nasbou, il est 13ème.
Okay.
Et notre petit jumel Lillois qui marche pas mal, hein, notre Lillois.
Oui, il progresse bien cette année. Ouais, 15ème, c'est bien. Ouais, dans les points.
Très étonné hier de le voir dans les points. Et il faut aussi le voir aussi bien placé sur la ligne.
Ouais, ils ont mieux pour lui. Le dernier Grand Prix, il a marqué des points aussi.
Donc, actuellement, donc, au classement, Senetti, donc il reste au bout de 7 tours. Je vous rappelle qu'il y a 24 tours pour la Moto 3. Donc, Senetti, 2ème, Quartararo. Troisième, Antonelli.
Voilà. Il y a encore 17 tours à faire. Hein.
Et il reste encore 17 tours. Mais c'est pas joué encore. Hein.
Non.
Parce que là, Alors Ken qui est remonté à la 9e place. Alors vous, il est passé de la 31e place à la 9e place. Et quand on regarde les motos, la puissance est un peu similaire. Hein,
exactement, ouais. Et il est quand même à 4 secondes et demie derrière, donc il va avoir du mal à raccrocher.
Effectivement, 4 secondes et demie derrière. Donc 4,728 millièmes de seconde.
Donc il va avoir du mal à raccrocher. Ouais.
Il va quand même avoir un mal à raccrocher, parce qu'on voit très bien que quand même... Ces motos ont une puissance
très semblable. Hein,
donc, oui. Ça va pas être facile. Il reste quand même 17 tours là maintenant. Je vais vous proposer un autre passage, parce que le casque, voilà, un autre passage. Voilà. Allez, c'est pas quelque chose. Notre étoile, on est repassé en 3e place.
Ah!
Il est repassé en 3e place. Allez-y, c'est deuxième,
Zanetti,
Bastianini et troisième Quartararo.
Ouais, mais quand...
Toujours à la deuxième place, donc le leader, voilà, et je vais vous donner la place de notre français, Masbou, qui est toujours 13e.
D'accord, ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que dans les premiers comme ça, avec le jeu des aspirations, ça change de leader de virage en virage, hein, et donc c'est pas très encore révélateur. Hein.
Il reste combien de tours là?
16 tours.
Il y a 8 tours d'effectuer, et en gros il y a un paquet, hein, il y a 4-5 pilotes là, qui sont ensemble, 6 pilotes ensemble. Hein.
Oui, c'est ça.
Après, il y a un peu détaché après.
Ouais, voilà.
En fait, c'est le jeu de la spie en moto 3. Hein.
Exactement.
Changement de leader actuellement. Je vous refais un passage.
Un dernier passage, oui, l'ami. Et puis on t'en reprendra après.
Les panneaux, vous me rappelez après par la suite. Là. Hein.
Oui, voilà.
Un dernier passage ici, vous allez entendre les motos passer et le tableau se remet à jour. Ça, voilà. Et voilà, on arrive voilà, ils arrivent au virage au raccordement. Et voilà. Alors, on est toujours avec Fenetti, Bastianini, Quartararo, Antonelli,
Oliveira, Banania.
Ouais, Quartararo, Fenetti. Voilà. Alors, effectivement, il y a eu un changement de leader. Effectivement. C'est Bastianini qui est passé.
Il est dans le bon wagon,
Il reste pas, il tombe dans la spie, hein, pratiquement, hein, dans la spie. Hein.
Exactement.
Il a laissé un petit écart quand même entre le deuxième et lui. Il y a à peu près une demi-seconde presque.
Oui, voilà, c'est ça.
Et Ken, c'est toujours 9e, donc je rappelle que c'est quand même leader actuellement au championnat moto 3, en championnat du monde, moto 3. Voilà, je vous propose, vous me rappelez tout à l'heure.
On te rappelle tout à l'heure, l'ami, oui, merci bien.
Ok, ouais. À tout à l'heure. N'empêche, t'as vu, hein, mon pronostic était presque bon. Hein. Il a 16 ans.
C'est pas fini. Ouais, à force de dire qu'il a 4 ans et demi, il a 16 ans maintenant.
Il a 16 ans maintenant. T'as vu voir que c'est un petit prodige quand même.
Ah,
t'as
c'est
vu
clair,
ce qu'il
c'est
a,
clair.
Le freinage de la mort qu'il a fait à Jerez
c'est magnifique. La dernière fois. Il a voulu faire Paris-Gero aussi, mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Trop élargi.
Il y a de l'idée. Ça marchera un jour.
Il a bien contrôlé quand même.
Il a du talent.
Il est resté sur ses roues. Il nous a fait peur.
Oui.
Vous restez avec nous, on met un petit morceau de musique. A tout à l'heure.
Who's gonna take care of you?
Ça, c'est un 4 cylindres d'un moto Grand Prix. Hein. Vous êtes toujours sur Radio Campus, Kick un coup, t'es tout pas, le magazine de la moto. Et avec nos spécialistes Grand Prix, nous allons maintenant parler Moto 2, Nico.
Ben oui, Moto 2, parce que effectivement, c'est la catégorie avec laquelle on a plus de chances d'avoir un champion du monde cette année. Hein. On a Zarco qui a le couteau entre les dents. Donc, c'est intéressant cette année. Il est en tête du championnat, là, actuellement. Donc, Claude, qu'est-ce que tu en penses aussi? Tu penses que c'est l'année Zarco?
Ah, peut-être, oui. Avec le renouveau, oui. Je croyais pas trop qu'il allait faire... je pensais qu'il allait rater certains et un Grand Prix.
Oui.
Et pour l'instant, à part le premier, mais c'est vraiment pas de sa faute.
Problème technique.
Ah non,
problème
technique, il avait le Grand Prix gagné, quasiment.
Il avait le Grand Prix gagné.
À 4 tours de la fin.
Justement,
il a perdu son sélecteur.
Son sélecteur est cassé. Donc il restait en 3e jusqu'au bout.
Mais il disait que c'était pas grave parce qu'il avait quand même dominé la course et que c'était
pour lui, dans sa tête, il avait gagné.
Il était le gagnant potentiel.
Mais ce qui est bien, justement, parce que certains pilotes auraient abandonné un coup comme ça.
Le mécontentement,
tu jettes ta moto. Et là, il a continué et a fini 8e. Il a marqué des points.
Il a failli se toller en regardant son repose-pied. Il a failli se toller.
Il est passé très près.
Près d'un mur.
Il a quand même 25 ans, je crois, lui.
Je crois même un peu plus. Il me semble 25 ou 27. Ouais. Je ne sais plus.
Et donc, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Je veux dire, il a commencé en mini-moto, je crois, vers l'âge de 13 ans. Et c'est à force de travail et d'acharnement qu'il est arrivé.
Il a couru en 125 aussi.
Il a couru en 125.
Il a même gagné des grands prix en 125.
Ouais, ouais, mais c'est le fruit du travail, quoi. C'est pas un hasard, quoi.
Ah bah non, c'est un très bon pilote depuis toujours. Hein.
Et son coach est réputé pour être très exigeant, quoi, tu vois. Par exemple, au début, il apprenait toutes les courbes, il les apprenait sur un cahier, il fallait qu'il trace tous les jours, enfin, etc.
Oui, et puis tourner beaucoup, rouler, un petit peu comme Rabat. Où il fait que ça. De toute façon, il habite dans un box à côté d'un circuit, hein, Rabat. Ouais, il vit seul, donc ça le gêne pas et il tourne quand il a envie de tourner.
Rabat, c'est le champion du monde en moto 2 l'an dernier et cette année, ben il a eu du mal en début de saison et là ça commence à aller mieux.
Il remonte bien. Ouais.
Oui, mais je pense que là il est.
Faut faire avec.
Ouais. Cette saison, enfin pour le Grand Prix du Mans, ça sera un client, je pense.
Et il y en a un qui met pas cette année quand même, c'est Rins.
Ah oui,
tout à fait.
C'est
parce
que
il sort du moto, c'est un bébé, il sort du moto 3 et il arrive là et
faut pas oublier qu'il a 20 ans. Hein.
Ouais, voilà.
C'est un
tout jeune
pilote,
c'est un gamin il a compris tout de suite. Hein. C'est incroyable. Ouais.
Zarco, il a 25.
Rins, il a commencé pareil à 16 ans, il courait déjà. À 17 ans, il a fait les premiers Grand Prix. Il a couru 3 ans en moto 3.
C'est encore issu de l'école espagnole.
Tout à fait. Ouais.
Mais en Espagne, ils commencent beaucoup plus tôt aussi qu'en France. Ils commencent à l'âge de 8 ans.
Ils sont très nombreux à commencer. Ils ont un championnat très très relevé parce que les meilleurs du monde viennent là. Donc en fait, dès le départ, ils sont confrontés à un niveau quasi international. Et donc, ils sortent d'excellents pilotes.
Il y a plein de facteurs. Par exemple, au niveau audiovisuel, la télévision retransmet le championnat. Si elle retransmet les Grands Prix, elle est obligée automatiquement de prendre le championnat espagnol en vue sur certaines chaînes de télévision en Espagne.
C'est très médiatisé.
C'est médiatisé. Ouais, l'apport publicitaire est énorme pour certains et donc ça entraîne plein de choses.
Il y a de l'argent pour ça. D'ailleurs, il y a 3 grands prix en Espagne alors qu'il y en a un dans les autres pays. Hein, parce qu'effectivement, ça remplit. À chaque fois, les circuits sont remplis. Le public, c'est là où il y a le plus de public en Espagne.
Un petit peu moins depuis 2 ans à cause de la crise qui a Espagne.
Ouais, voilà, ils ont
N'empêche, plus tu commences jeune et plus tu as des chances de développer rapidement. Quand tu prends l'apprentissage des langues, par exemple, plus tu commences jeune et plus tu mets
tout du même côté, mais bon.
Il faut être doué déjà.
Il y a des exemples de pilotes qui ont commencé sur le tard et qui ont été très performants.
Oui,
donc c'est pas forcément une religion.
En moto 2, il y en a un qui me fait peur, c'est Love.
Alors lui, oui, lui est spectaculaire.
Très spectaculaire.
C'est tout ou rien. Il chute souvent. Il est très généreux.
Il a été champion du monde.
Il a été champion du monde en super sport.
Enfin, là, il a marqué deux fois sur trois. Il était quand même 2 fois sur 4. Il était quand même dans les 3 premiers. Et il a chuté 2 fois.
Ouais, voilà.
Ça passe ou ça casse avec lui.
Non, c'est vrai que c'est. Et puis il y a Folger aussi, hein, qui est toujours là. Hein.
Oui, alors, il a gagné deux grands prix, hein, quand même, grâce à Zarco, parce qu'il a cassé.
Ouais.
Ok, d'accord, mais il était quand même deuxième largement.
Ouais.
Et ensuite, le dernier Grand Prix, là, il a dominé.
Il a bien dominé, ouais, c'est vrai.
Et là, il est encore assez bien placé. Il a fait la dernière partie des essais, il n'a pas très bien fait, mais il a quand même bien marché, je pense. Ouais. Il y a Lutti qui est toujours là.
Lutti aussi.
Qui revient un petit peu.
Ouais.
Ouais. Et puis autrement, il y en a des nouveaux qui poussent un peu, je trouve. Oui. Morbidelli, moi j'aime bien. Hein. C'est pareil, c'est un mec de 20 ans. Ça fait la deuxième saison qu'il court en moto 2. Et il marche bien, hein. Marche des points à chaque fois et il est assez bien placé.
C'est des courses spectaculaires, il faut rappeler que le Moto2, ils ont tous le même moteur et on échange de moteurs en cours de saison. Oui. Donc, Siméon, le Belge, donc il y a pas mal de pilotes, c'est intéressant, c'est une belle...
Une belle année, je pense. Aussi bien dans toutes les catégories, c'est très ouvert.
À part le dernier Grand Prix en MotoGP qui était un petit peu plus terne, autrement, c'était spectaculaire pour tous les Grands Prix.
Pour tous les Grands Prix, c'est assez spectaculaire.
Il y a l'autre Français, là, Louis Rossi, qui s'est cassé la main, je crois.
C'est ça. Il s'est cassé la main, il s'est fracturé
la main droite en plus, je crois.
La main droite,
ça doit être un petit os du poignet en trois morceaux.
Parce que je me souviens quand Lamiche avait fait un direct il y a quelques années, il avait gagné le Moto 3 en, je crois,
sous la pluie.
On avait passé un interview de lui sans savoir qu'il allait gagner,
tout à fait,
et on était sur la grille d'arrivée quand il a gagné.
Je me souviens encore de Lamiche, comment il hurlait dans le micro. Vous restez avec nous, on va passer un petit morceau de musique et après on revient sur les GP ou sur le Moto 3, d'accord? À tout de suite.
We'll be right back.
ça sent bon, hein, l'essence et le deux temps. On revient au Grand Prix avec Claude. Hein, Claude, alors, à ton avis, Rossi, Lorenzo
sur les
motos ou Marquez?
Les motos Grand Prix, oui. Alors, il y a Rossi, tout le monde aime bien Rossi. Mais je sais pas, je le sens en Stanès.
36 ans,
il
je
me
crois.
Surprend, ouais, 36 ans, ouais. Je sais pas, 8e sur la grille de départ au Moto Grand Prix au Qatar, et il les gagne. Par contre, il y a une surprise pour beaucoup, ce sont les Ducati qui marchent très bien.
Dovizioso, ouais.
Bon, ils ont un peu marqué le pas au dernier Grand Prix, mais autrement, ils sont toujours là. Hein. Dovizioso, quand même, 3 fois 2e.
Ouais.
Bon, ça veut dire quelque chose. Ils attendent l'Italie, hein. Il y en a beaucoup qui le disent. Par contre, Iannone. Il est blessé.
Oui, il est blessé, ça fait mal, ouais.
Mais il faut dire que Marquez aussi, il s'est tordu le doigt, il a le doigt gonflé, et que ben il a fait quand même le meilleur temps, hein, largement devant Lorenzo, mais largement.
Mais il y en a un blessé, il a quand même fait le 5e temps, hein, hier, au qualif.
Pour un 10e, donc c'est pas. C'est on dingue. on dit loin, mais c'est tout proche. Hein,
ah, c'est tout proche. Tout
mais Lorenzo aussi, quand il est en forme et que tout va bien.
Lorenzo est très en forme. Il l'a prouvé la semaine dernière en faisant le meilleur temps, le meilleur temps en course et la victoire. Donc,
la totale.
La totale.
C'est parce qu'il y avait eu un problème de casque au Qatar, je crois, et puis un rhume au Texas.
C'est ce qu'il y en a qui disent, oui. Ouais. Moi, je pense qu'il...
C'est dans la tête.
Un peu dans la tête.
Ouais. Il marche comme ça, lui. Quand tout va bien dans la tête, il gagne. Quand ça va pas du tout. Ouais.
Psychologiquement, il y a une chose qui est importante, c'est que maintenant, on a prouvé qu'on pouvait pas être devant Marquez. Oui. Et je pense que Lorenzo est très sensible à ça aussi.
Oui, en plus Rossi il l'a montré qu'il pouvait le rattraper, le passer et le battre. Voilà. Parce que souvent quand on passe Marquez le repasse systématiquement dans le virage suivant pratiquement, ou deux virages après celui qui vient de le passer. Même si après il se fait redoubler, mais il essaie de s'imposer toujours. Il a essayé même virilement, hein. Je pense que tous ceux qui l'ont vu, mais il n'a pas gagné. C'est Rossi qui a gagné.
Et puis Alex Espargaro là sur la Suzuki qui marche bien cette année, hein, elle est toute neuve cette moto.
Les Suzuki marchent bien. Hein,
il est même devant son frère.
Ouais. Il est devant son frère, mais par contre il s'est fait mal. Il a fait la chute de sa vie. Il a dit c'est la plus grosse chute de ma carrière. Je sais ce que c'est que voler à 200 km/h. Et il s'est fracturé la main droite, donc il est compromis pour la course.
Il est compromis pour la course.
D'accord.
C'est pour ça qu'il n'a pas couru au warm-up.
Il n'a pas été au warm-up. Je pense pas qu'il pourra prendre le départ.
C'est dommage pour les 30 ans de.
Oui, c'était les 30 ans de Suzuki. Ouais, voilà, il avait fait un événement au Mans avec ça. Ouais.
Mais je m'inquiète pas quand même pour Suzuki. Il y a quand même Vinales. C'est un jeune. Il l'a prouvé l'année dernière en Moto 2. Il a fait une saison en Moto 2. Il a gagné quand même 4 Grands Prix. Là, il marque des points pratiquement à chaque Grand Prix. Pour un nouveau arrivé en moto, même si c'est sa nouvelle saison, c'est assez fantastique parce que peu de gens, même avec une moto, c'est une moto en développement, c'est rare.
Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai l'impression que notre en moto 3, que Quartararo est tombé parce qu'il n'est plus dans les 10 premiers. Là.
Oui, on en faisait un petit peu trop. Et puis il ne faut pas oublier que c'est sa première saison, que c'est un jeune débutant.
Il s'était mis beaucoup de pression.
Je pense aussi.
Il voulait absolument gagner en France.
Premier Grand Prix en France aussi.
Il en fait trop. Ouais. C'est un gamin, il a trop de pression sur le dos.
Mais il avait déjà tourné sur le Mans.
Ah, bien sûr, oui, il connaît.
C'est un circuit qu'il connaissait déjà. Il avait déjà tourné. Mais par contre, c'est vrai que c'est sa première saison avec l'élite, avec l'ensemble des pilotes.
Donc là, c'est fini. À mon avis, est tombé.
Bon, la Mich nous dira ça tout à l'heure.
Un petit morceau de musique, et puis il va nous dire ça. Ça va être l'arrivée. Hein. Ça va être l'arrivée dans 5 tours.
Ok, on va passer un petit morceau de musique et on reprend la Mich après,
la Mich,
ensemble,
ouais.
Hein, pour vivre l'arrivée en direct, avec toute l'émotion.
Black Jack.
Et on retrouve notre envoyé spécial au Grand Prix de France au Mans. Lamiche, t'es avec nous?
Oui, toujours en direct du circuit Bugatti, au Mans, en direct du championnat du monde de vitesse, avec la fin de la course Moto 3. Et malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être.
Oui.
Nous, on est au courant, on a la télé, là.
Malheureusement, notre pilote favori, hein, notre petit français Quartararo, a chuté. A chuté il y a dans le 8e tour. J'ai laissé passer les motos, là, parce que là, ils enchaînent le 22e tour. Et malheureusement, aussi, notre Jules Danino, aussi, notre petit bijou, là, a chuté aussi.
Ah ben.
Alors actuellement il reste Masbourg en dixième position. Masbourg en dixième position. Le premier de cette course Moto 3, c'est Spalletti. Le deuxième c'est Bagnaia Kent. Après c'est Battistini en quatrième position. Et j'ai quelque chose de incroyable, c'est Kent qui était parti en 31e position. Et finalement troisième. Alors je ne sais pas si c'est au niveau du moteur ou les performances de la moto, ou alors c'est vraiment au niveau du pilotage, mais partir en fin de grille et remonter à la troisième position, à deux tours de
l'arrivée. Deux tours
à
l'arrivée, ouais.
C'est très fort, ouais.
C'est très fort. Voilà.
Il conforte sa position, donc,
voilà. Alors voilà, donc il prendra 18 points, je crois, c'est voilà, quand même. Mais on rappelle que c'est quand même le leader du championnat.
Ouais, il peut gagner, hein, il peut gagner encore. Hein.
Ah oui, il peut gagner parce
qu'il était une demi-seconde à peine. Hein.
Ah ouais. Oui, il reste. En fait, là, il est encore troisième actuellement.
Ouais, oui.
Troisième, devant Zanetti.
Fanetti et Banania, oui.
Troisième, mais en fait, ils sont tous à la speed. Vous savez, les motos 3, ça se joue surtout comme ça, à l'aspiration.
Ah oui, ils passent à 3 en même temps dans le même virage.
Là, sur le contrôle des écrans, effectivement, là, on voit actuellement une grosse bagarre et ça se peut très bien que Kent.
À mon avis, il va tout faire pour gagner, hein. Bah oui, une fois de plus, hein. Il a déjà 3 victoires.
Ouais, il vient de passer juste devant la ligne des stands. Et ça va finir très mal. Ça va finir très mal.
Ah non, ça va finir mal. C'est la vie, je vous le dis.
Reste pas sur la piste, c'est dangereux.
Actuellement, il y a une bagarre actuellement entre ces trois-là.
Oui, surtout que Fenati, c'est pas un tendre en la bagarre, hein.
C'est le dernier tour, oui. Et Alexis Masbou, ça a plus l'air d'aller trop bien non plus.
Troisième. Attention, il reste un tour. Là, je vais vous donner l'arrivée donc du.
On va vivre avec toi l'arrivée en direct, ouais.
On va vivre en direct.
Crie pas trop fort, on t'entendra mieux.
D'accord.
Et Alexis Masbou, il a plus l'air d'être dixième du tout.
Hein. Alors, attention. Alors, là, c'est actuellement à chaque virage, on voit qu'il y a. Il y a un changement de place.
Leader.
Au niveau de la deuxième, troisième place. Et alors, Kent est quatrième, Kent. Voilà, c'est. Oh là là. Oh, aïe, aïe. Attention, c'est le dernier virage.
Donc, il y a Banania, Fenati et Kent.
Et voilà, c'est ça. Donc, Banania, Fenati, Kent. Alors, Fenati. Attention, c'est fini, c'est la ligne d'arrivée. Fenati. Allô.
Oui.
Oui.
Allô, c'est Fenati qui a gagné.
Fenati numéro 5.
Ouais. Bagnaia Kent, c'est 4e. Antonelli. Vinales, Oliveira. Et voilà. Et notre seul français. Voilà, c'est vrai que donc actuellement en course, je regarde sur le rafraîchissement du panneau.
C'est qui? C'est Masbou, c'est ça?
C'est Masbou, le dernier français, oui. Mais je pense qu'il y a des.
Masbou, on trouve pas Masbou, alors donc là.
Ouais, il est tombé aussi, hein. Ouais.
Et alors, je pense que Masbou a chuté aussi.
Ouais.
En fait, Quartararo a chuté, Masbou a chuté. Et Jules Danino a chuté aussi,
Il n'y a plus aucun français à l'arrivée.
Bon. Hein, voilà, pour la France, c'est pas bon pour la moto.
Comme on dit, jamais 203.
Oui, jamais 203.
Bah, j'espère que ça ira mieux Moto 2. Hein.
Bon, j'espère qu'en Moto 2.
J'espère que ça va aller mieux parce que là, c'est la douche froide. Hein.
Voilà. Donc, alors, on a vu revenir Fabio Quartararo en scooter. Et en fait, on voit déjà qu'il est très connu par le public parce qu'il a été très, très, très applaudi en fait.
Ah bah ouais.
Dans toutes les tribunes. Ça va peut-être nous faire un petit Valentino Rossi, enfin un grand Valentino Rossi plus tard.
Hein. Ouais, mais faut pas trop lui mettre la pression parce que ça le fait tomber. Hein. Ouais. Faut le ménager le genou.
Alors, Quartararo réputé pour ne pas chuter. Hein.
Bah oui.
Donc il a chuté hier donc en qualif, mais bon il a été surpris par
la pluie,
par la pluie
en pneus slick.
Je l'ai rappelé dans ma première intervention. Hein. Heureusement ils sont sortis donc en premier. Et donc ils ont réussi à faire un temps miracle sur le sec, et les autres concurrents eux sont partis sur le mouillé, donc forcément là il n'y a pas de secret.
Forcément c'est beaucoup moins vite.
Voilà. Et donc il a chuté donc hier notre Quartararo et encore chuté aujourd'hui. Et je pense qu'il a voulu faire le forcing parce qu'on voyait bien qu'il était rattrapé.
Pression.
Et il a voulu rester en troisième position. Et il a un peu forcé, et quand on force un peu.
Il faut qu'il apprenne un petit peu la sagesse, mais ça va venir.
Et maintenant, il va falloir apprendre effectivement à maîtriser et puis
gérer.
Et la sagesse, comme tu dis, Nicolas.
J'aurais
peut-être le temps, si vous me rappelez, vers 12h20, pour vous donner peut-être
le départ de Moto 2.
Ce qui se passe en Moto 2. Entendu.
Très bien.
Merci beaucoup, la Miche. Merci
bien. À
tout à l'heure,
la Miche.
Salut.
Just move to the rhythm of the last song. Yeah,
Vous êtes toujours sur Radio Campus, Kikinkout et Toupal, le magazine de la moto tous les dimanches. Nous retrouvons au téléphone François qui organise le rallye de moto ancienne, les Vieux Clous. François, t'es avec nous ?
Oui, je t'entends très bien.
Voilà, t'es au téléphone, t'es en vacances je crois, hein, c'est ça ?
Oui, je suis en vacances.
Voilà. Donc
oui.
c'est le week-end prochain le rallye que tu organises ?
Week-end prochain, samedi, dimanche et lundi.
Comme chaque année ?
Comme chaque année, avec une petite différence, c'est que d'habitude c'était vendredi, samedi, dimanche, mais c'est pas très grave. Donc samedi, dimanche et lundi, 3 jours de rallye avec nos amis anglais.
Et belges aussi, non ?
Des belges, quelques-uns, et puis surtout des hollandais qui viennent au moins 5 cette année, et pour lesquels les liens se sont construits depuis plusieurs années. Donc on a un petit groupe et j'espère qu'ils viendront de plus en plus nombreux dans les années qui viennent.
C'est la combien édition cette année ?
38e édition.
Ouais, quand même.
Ouais, quand même, hein, c'est bien.
Voilà, ça commence à causer, là.
Ça commence à, ouais, compter.
Au programme de ce rallye, les principaux éléments.
Pour les points de rendez-vous, samedi, nous partons sur Salpervic, près de Saint-Omer.
Ouais, rejoindre les Anglais.
Où vont nous rejoindre les Anglais qui ont débarqué, si j'ose dire, de Calais.
Ouais.
Et puis, après un déjeuner sympa de Salpervic, nous allons sur la base départementale de Olin.
Ouais, vous allez faire des kilomètres, hein, ça va être dur. Hein.
Quelques bornes.
Il y a le camion d'assistance, de toute façon.
Le lendemain, nous allons rendre hommage aux Anglais pour une bataille qu'on a largement perdue à Azincourt. Je fais appel aux historiens.
Ouais.
Donc, vers Montreuil. Ça, c'est la balade du dimanche en roadbook, bien entendu, dans la circulation, mais tranquille, peinard, chacun à son rythme. Le point essentiel étant d'être au rendez-vous sur les points de ravitaillement, si j'ose dire.
Ouais, donc si on veut venir les voir, c'est où pour venir les voir le mieux le samedi ?
Alors, samedi, ce sera au musée médiéval d'Azincourt. Nous y sommes pour les déjeuners.
Oui,
vers midi alors ?
Midi et demi. Le soir, à la base départementale de Olin.
D'accord.
Ouais. Nous y serons le samedi soir et le dimanche soir. Et surtout le lundi. À Lambersart.
Lambersart comme d'habitude.
Ferme du Mont-Garin, ouais. Comme d'habitude. Voilà. Vers Lingen, rue Louis-Blériot. On doit y être vers entre midi et demi et 13h pour ceux qui veulent voir les motos arriver. Et on est là avec une exposition dans la cour intérieure jusqu'à 16h.
D'accord.
Voilà le programme.
Donc il y a quand même pas mal de kilomètres cette année.
Il y a toujours à peu près le même kilométrage.
Ah bon?
Si je compte les Anglais, ils vont faire facilement dans les 600.
Ouais, quand même, en ancienne, c'est beau.
En bornes, ouais. Ancienne, donc ouais. Voilà. Donc ça nous amène des questionnements, comme toute association, sur les types de motos qui s'inscrivent et qui deviennent un petit peu puissantes. Et toujours le problème de l'âge des motos, mais on y parvient.
Ouais, c'est vrai que ça commence à... On commence à avoir des anciennes qui sont un petit peu plus modernes maintenant. Donc est-ce qu'on peut les prendre ou pas, quoi ? C'est toujours le problème.
Voilà, c'est ça. Donc des gens ici prennent effectivement quelquefois des un petit peu plus récentes, mais bon, on est en train de voir tout ça.
Et pour l'instant, c'est quoi votre religion ? Ça s'arrête à quelle année ? Ça s'arrête aux pneus étroits ?
C'est un grand débat interne à la question. Très ancien, que Kikinkout est témoin depuis des années d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est une réflexion sur laquelle on va probablement ouvrir. Mais ouvrir, ça veut dire aussi qu'on prépare d'autres manifestations. Et donc, en fonction des manifestations, on essaiera aussi d'avoir des règles du jeu différentes en fonction des rallyes. On pense notamment au rallye du patrimoine, où on fera sur une journée, où là, on va faire un effort et solliciter les adhérents et les participants à ce qu'on sorte les très très vieilles machines.
Oui. Voilà. C'est vrai que les avant-guerres, dans une balade aussi longue, c'est un petit peu compliqué.
Ça peut être un peu compliqué. Ouais. Enfin, il y en a.
Il y en a toujours. Ouais.
Il y a eu des 1914 qui ont fait le rallye, il fut un temps.
Oui, tout à fait, respect.
Après, l'âge des pilotes ne s'arrange pas non plus.
Non. Mais c'est vrai. Ouais. Il y a d'ailleurs des pilotes qui ont le même âge que leur machine.
Attends, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais pas.
Bon, c'est toujours un moment très convivial, de toute façon, la balade des Vieux Clous aussi.
C'est l'objectif, c'est en général familial, les gens qui viennent, ça c'est marrant, puisque bon, on voit trois générations faciles
venir voir un peu ces motos qui attirent toujours du monde. Enfin, c'est toujours assez sympa.
Il y a toujours un capital sympathie énorme. Et puis, c'est vrai que c'est bien de voir rouler ces motos parce qu'on les voit dans les musées quelquefois, mais on les voit rarement rouler.
C'est Nico qui dit tout le temps, une moto, c'est fait pour rouler.
Voilà. Bah oui.
Nous, on rajoute aussi vieille soit-elle. C'est une maxime qui...
Ouais, depuis toujours, sur vos affiches, ouais, je me souviens bien.
Voilà. Ouais. Bon, et ça, c'est aussi le résultat, je voudrais insister, de toute une équipe. Hein, donc, je les salue au passage parce que c'est du boulot.
Une grosse organisation.
Ça se fait aussi dans la convivialité, ce qui est très bien. Mmh.
D'accord, bah on viendra sur le bord de la route vous voir. Ouais.
Eh bien, écoute, vous êtes les bienvenus. Dimanche, je ne sais pas si vous aurez le temps. Enfin, lundi, c'est bon, il n'y a pas d'émission. Vous pouvez...
Ah oui, non, il y en a qui travaillent en fait. Hein.
Je vais oser dire qu'on a décalé exprès pour que les gens ne piquent un coup.
C'est sympa.
Bon, ça, c'est une sacrée belle récupération.
Ah ouais, on ne croit pas.
Sinon, tu participes au salon de notre ami, là, Christophe Marquis, là. Ouais. C'est prévu, non? Tu ne sais pas encore? C'est en négociation?
Cette année, je ne sais pas. On l'a fait la première fois, là, quand il nous avait fait un appel au peuple, c'est le moins qu'on puisse dire, là, pour son projet. Mais non, pour le moment, j'ai pas
Parce qu'il est prévu qu'il réitère le salon au mois d'octobre Comines. Donc on se verra peut-être là-bas alors.
Bah écoute, moi ça c'est des décisions que je prends toujours avec l'équipe. C'est jamais le fait du président. Donc s'il nous informe qu'il a l'intention de le refaire, on va regarder la question.
D'accord, ok, merci. Allez, on se retrouve la semaine
prochaine.
À bientôt,
oui.
À bientôt, merci François.
Au plaisir de vous rencontrer. Salut.
Allez, au revoir.
Bonjour à tous, au revoir.
Vous êtes bien toujours sur Radio Campus. Nous retrouvons notre ami Guy depuis Saint-Jean-Capelle avec Jean-Paul Ménager, le président du Scooter Lambretta Club de France. Guy, t'es avec nous ?
Oui, en effet. Bonjour tout le monde, loin des cris de la miche
et de sa passion
du circuit, oui, du Mans. Par contre, ici, c'est le Lambretta Club qui a organisé pendant 4 jours un déplacement, une réunion, assemblée générale, etc. Et je suis avec le président Jean-Paul Ménager qui est à côté de moi. Je te le passe, le Fred.
Ouais, oui, ok. Allô, Jean-Paul. Allô,
allô.
Allô, Jean-Paul, allô. Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est la cinquième édition, c'est ça, de votre rassemblement?
Voilà, donc c'est la cinquième édition que l'on réalise sur différents points de France. Cette année, c'est des lambrettistes de Lille qui ont organisé ça. Ils avaient choisi les Monts de Flandre et Saint-Jean-de-Capelle comme point de chute pour notre rassemblement.
D'accord, comme point de chute. J'espère qu'ils restent sur leur roue.
Non, tout s'est bien passé, aucun problème.
D'accord.
Une petite bruine hier matin, les balades se sont très bien déroulées.
Le siège social, il est à Nice, je crois, c'est ça?
À Cannes, oui. Cannes, c'est le siège de l'association.
D'accord. Et vous nous avez pas ramené le soleil, hein?
Non. Mais bon, je crois que le mauvais temps était un peu général sur toute la France.
Aujourd'hui, ça va un peu mieux.
De jeudi soir, vendredi. Mais bon, ça s'est arrangé. Ouais.
Alors, je crois que vous avez fait du tourisme aussi en même temps avec vos Lambretta.
Oui. Donc, évidemment, des balades pour visiter la région étaient organisées. Donc, nous sommes allés vendredi après-midi voir le récent et beau musée de la bataille de Fromelles. Voilà, donc c'était le samedi, vendredi après-midi.
Okay.
Et puis hier, donc on est parti pour la journée avec deux passages en Belgique et le passage par les traditionnels monts de Flandre, là, le mont de Cat, Cassel, différents moulins également. Donc,
ouais, vous êtes allé jusqu'à Bailleul, je crois aussi, non, c'est ça?
Voilà, donc là, on est passé par Bailleul et ce matin, donc nous sommes à Bailleul, nous venons de visiter le beffroi de Bailleul.
Et le Lambretta, ça a toujours été popularisé en Angleterre par les mods. Est-ce que c'est toujours présent, cet esprit
Oui, il y a énormément de lambrettistes en Angleterre. Hein. Les grands clubs européens sont les Anglais et bien évidemment les Italiens,
oui.
Hein, puisque la marque Lambretta a été fabriquée à Milan. Par la marque Innocenti.
Oui, la même que la petite voiture, là. Ah, oui.
Mmh. Voilà. Donc, il y a à peu près. Le Lambretta Club d'Angleterre est énorme. Il représente près de 4000 adhérents. À peu près même chose en Italie. Et nous, en France, nous sommes beaucoup plus modestes. Hein, nous représentons près de 200 adhérents.
Ouais. Et quelques adhérents qui mettent des rétroviseurs partout, comme à la belle époque.
Oui. Alors, ouais. On a un peu toutes les tendances. Hein. On a le Lambretta très classique, puisqu'il a été fabriqué dans les années 50 sous licence par la société industrielle de Troyes, dans la banlieue de Troyes, donc à Saint-Julien-les-Villas.
Il y a eu des Lambretta fabriqués en France. Ouais.
Oui, dans les années 50. Il y en a eu beaucoup, hein, et on en retrouve beaucoup. Hein, et les personnes les remettent en service.
D'accord. Et pour trouver les pièces, il y a toujours des possibilités, on refabrique?
Oui, il y a de la refabrication d'un grand nombre de pièces, surtout des modèles des années 60, hein, plus l'époque mode. Quelques fabrications des pièces d'usure, de plasturgie pour les années 50 également. Et puis après, ben, évidemment, il y a la Chine dans les bourses d'euros, bourses moto, pour trouver les pièces de carrosserie qui...
D'accord, donc c'est bien, ça perdure, c'est bien.
Mm. Oui.
Pas de soucis techniques sur ce rassemblement là.
Ça a été, pas de problème particulier, tout s'est bien passé.
Très bien, donc vous reviendrez alors?
Oui, on va revenir dans la région, il n'y aura pas de soucis. Je pense que Alors sur l'île, on a un club qui s'appelle le Seagull Scooter Club, qui est un club multimarque, spécialisé dans le scooter ancien. Et donc, qui organise également régulièrement des balades. Et j'invite donc les scooteristes de la région Nord à prendre contact avec eux. Et
ils ont un site internet, non? Tu sais pas?
Oui, je crois qu'ils ont un site internet. Ils ont une page Facebook, pareil que le club, Lambretta Club de France. Donc, vous pouvez les trouver sur le net.
Et on peut vous voir aujourd'hui encore?
Non.
Cet après-midi, non, ça y est, ça remballe.
Non, ouais. Tout le monde rentre. Parce
d'accord, bah oui.
Il y a de la route.
Sur toute la France.
Il y a de la route, repartir à Cannes en Lambretta.
Non, il y a quelques Marseillais, Cannois, il y a des Parisiens, il y a des gens de Normandie, de Bretagne, des gens de la Nièvre, enfin un petit peu partout, quoi.
Ouais, c'est bien.
Mmh. D'accord. Faudra inviter tes amis de Lille de nous communiquer leurs informations pour qu'on les mette dans le calendrier l'année prochaine.
D'accord. Okay, ça marche.
Merci Jean-Paul. On te dit bon retour.
Ouais, merci beaucoup pour votre accueil sur votre station.
De rien, ça nous fait plaisir. Et à l'année prochaine, peut-être.
D'accord, ok. Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Musique. Petite info motoclub, les 23 et 24 mai prochains sera organisé le premier rassemblement européen des Ladies of Harley par le Lille Europe Chapter à partir de 10h à l'hôtel Mercure de l'Équin. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y aura notamment une jeune artiste qui s'appelle Emeline qui fait de la peinture sur aérographe et qui va exposer à cette occasion, à l'hôtel Mercure de l'Équin. Et donc c'est une jeune artiste qui est en train de lancer son entreprise. Et si vous voulez voir ce qu'elle fait, donc elle peint sur des réservoirs et des casques, mais pas seulement. Et si vous voulez voir, vous allez sur art Reo.com et vous aurez une idée de ce qu'elle est capable de faire. On va revenir au Moto 2 avec Nico. Avec Nico et Jean-Pierre.
Ah oui, on avait essayé d'avoir Nicolas Bonduel, celui qui a participé au Mans. Et donc, on avait essayé de l'avoir au téléphone et puis on n'arrive pas à le joindre. Alors, s'il nous entend, il peut nous appeler. Hein.
Ouais.
Oui, donc on va revenir sur le Moto 2. Donc, c'est vrai que on avait parlé. La course va démarrer normalement d'ici un petit 20 minutes.
Ouais, on retrouvera la Miche qui va nous faire
faire un petit speech pour la fin de l'émission.
Ouais.
Et donc, on avait, si on fait un petit point de là où c'en était, il y avait Zarco, Folger et Rins qui sont tous les trois en tête du championnat du monde pour l'instant. Et Rins, c'est le rookie de l'année et il vient du Moto 3, c'est la première année qu'il est en Moto 2 et il a déjà été sur le podium 3 fois sur 4. Donc c'était quand même un bel exploit. Et puis il y a toujours également Zarco donc qui a réussi à faire deux courses sans quitter le podium, et il aurait dû être également sur le podium lors de la première course puisque il a eu un petit souci. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un souci technique dans les studios, je pense que
non, je crois qu'il y a un téléphone.
Ah, il y a un téléphone qui fait blip blip. Donc on va repasser un petit morceau de musique peut-être en attendant de retrouver ses esprits.
C'était Nicolas Bonduel qui s'est rappelé mais sur le portable.
On va
le rappeler alors.
Voilà.
On va le rappeler pendant le morceau de musique si vous voulez.
Voilà. On fait comme ça.
On fait un morceau de musique. Très bien.
Allez.
Ne quittez pas.
Et on retrouve Nicolas Bonduel qui a notamment participé aux 24 heures du Mans. Nicolas, t'es avec nous ?
Ouais, je suis bien avec vous. Ouais.
Tu nous entends ? Nickel ?
Ouais, ouais, très bien, très très bien.
Alors bravo hein, Nicolas, donc ça s'est bien passé. Vous avez seul bicylindre à l'arrivée, seul italienne à l'arrivée, 37e. Vous avez rempli l'office, hein ?
On a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Un gros bonjour et bisous à tout le monde. Ça a été un peu rêve d'un jour, mais qui a duré une semaine l'histoire. Donc c'était ma première de course de 24 heures. C'est extrêmement physique. Enfin, c'est un point où moi je m'étais théoriquement bien préparé, mais en fait absolument pas assez. Ça s'est très très bien passé. Les deux autres Serge Scherrer comme Christophe Delambois sont vraiment bien démerdés parce que c'est un exercice qui est quand même vraiment pas facile. La Ducat a fonctionné, on s'est aussi respecté pour pas casser le moteur, à pas l'emmener trop dans les tours durant toute la course.
Oui.
C'est qu'on a réussi à passer l'arrivée, donc c'est frustrant parce que on se fait déboîter par tout le monde sur les boulevards, mais on n'a pas trop le choix si on veut essayer de... Enfin, c'était une théorie qui a marché, donc on est très très content.
D'accord, pour pouvoir rester en course, il fallait limiter les régimes, on ne pouvait pas vous permettre de...
Oui, ouais. On s'était dit que si on passait 9500, enfin si on était au-delà de 9500, elle ne dirait pas au bout, on en était un peu averti quand même, donc il y avait une autre moto de la Scuderia, ils ont essayé, elle a cassé à 4h du matin, et nous on a réussi à la maintenir en forme jusqu'au bout, et c'était le but, hein. Le but c'était quand même déjà d'essayer de rallier l'arrivée, c'est vraiment un exercice facile. Ouais. Je peux vous dire que la définition d'aller au bout de soi-même, je l'ai bien compris durant la nuit.
Tu l'as vécu en vrai.
C'est infernal dans la mesure où c'est plus une course d'endurance, leur connerie, c'est une course de vitesse qui dure 24 heures.
Le rythme ne faiblit jamais, même la nuit, même. Voilà, ouais.
Bah oui, alors les chronos dont vous avez la visibilité sont à prendre en considération avec 9500 tours maxi, c'est-à-dire une chimie
droit,
donc c'est pas simple du tout, donc on n'a pas pu s'économiser en sinueux et pour maintenir malgré tout ces chronos là quoi. Voilà.
Et vous n'avez pas trop de soucis mécaniques, un projectile qui vous a pénalisé un petit peu?
On n'a pas eu de bol, dans l'ensemble on n'a eu que du bol, donc on va pas se plaindre. Malheureusement Christophe est tombé au 7e tour suite à un radiateur percé, il s'est pris une nuée de gravier sur le bout droit derrière qui a ouvert le radiateur et il y a un brouillard d'eau en fait qui lui a servi la roue avant, ce qui fait que ça n'a pas fait longtemps.
D'accord.
Et, ouais, heureusement pas, il s'est pas fait mal, il n'a pas trop cassé la moto, c'était au raccordement donc en bas.
Ouais, il a pu rentrer au stand et... Oui.
Bah, grosse perte de temps, 50 minutes.
Ah oui, quand même. Ouais, c'est terrible.
Avec 20 tours de retard, c'est une catastrophe. Moi, j'ai pris le guidon, j'avais 20 tours de retard, puis quelques kilomètres 2. Je me dis, on n'est pas prêt de revoir l'avant-dernier. Puis en fait, si, parce que c'est la guerre, quoi. Tout le monde tombe, machin, c'est une catastrophe. Il faut...
Tout le monde a solo de problèmes, donc en fait, finalement, on revient dans le rang.
Oui. En fait, tu te rends compte que c'est très compliqué pour tout le monde, même des gens qui sont complètement habitués de la discipline, quoi. Mais c'est sur l'ensemble, beaucoup de chance. Après, tous les gens qui ont bossé avec nous, c'est que des passionnés bénévoles, ont super bien travaillé. Et c'est ce qui fait qu'on s'en est très bien sortis, qu'on a passé une semaine formidable. C'est pour cette alchimie-là qu'on était vraiment très contents d'aller au bout aussi, quoi.
Ouais, c'est une belle aventure. Une belle aventure humaine en même temps que mécanique. Ouais, voilà.
Oui, puis si tu veux, on était complètement en marche parce qu'on est des tout petits. C'est la mondiale.
Il n'y avait pas d'enjeu, évidemment. L'enjeu, c'était d'arriver. Ouais.
Oui, c'est vrai, voilà. Bah, c'était déjà tellement fort pour nous de passer les qualifs. Moi, j'ai vraiment tout donné aux qualifs comme tout le monde. Mais en plus, j'ai cassé un moteur le lendemain, donc j'ai un peu fait chier les autres parce qu'on n'a pas pu progresser comme on voulait. C'est passé quand même tout juste, mais tout était très 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 compliqué. Donc après les qualifs, on était détendu. La course, moi, je la prenais vraiment pas.
C'était du bonheur derrière. Oui, voilà. Le plus dur était fait, mais en fait non.
Moi, j'ai cru ça jusqu'à 4h du matin où ton corps se dit parce qu'il en peut plus.
Tétanisé. Après,
de tenir. Moi, j'ai dormi 25 minutes sur les 24 heures. C'est une catastrophe.
C'est catastrophe. Ouais, bien sûr. T'as la tension. Ouais, bien sûr.
Ouais. Non, mais on en reparlera peut-être un peu plus longtemps. Mais c'est en tout cas un très très grand merci à tous les gens qui ont cru au projet parce qu'il fallait nous soutenir et on a réussi à aller au bout. On est super content de rendre la manière à ces gens. On est aussi content. C'est pour plein de monde. On a eu ce sens-là et c'est fallait qu'on aille
Ouais, on t'entend mal, Nicolas, mais on a bien vibré avec vous aussi et on vous en remercie. Vous nous avez fait chaud au cœur de vibrer comme ça.
On a mis suivi. Un autocollant qui quincou jusqu'au bout.
Oui, voilà. Pour vous. Ouais. C'est ce que j'ai mis. J'ai dit un autocollant qui quincou qui a fait 696 tours du Mans.
Voilà.
Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt.
Un très grand merci à vous.
Ouais.
Allez,
bon dimanche.
Nico. Salut. Salut à tout le monde. Ouais.
Et on retrouve notre envoyé spécial, Lamiche, qui devrait nous commenter le départ en direct de la Moto 2. Lamiche, t'es avec nous?
Oui, toujours en direct du championnat du monde de vitesse, ici au Mans, au Bugatti. Devinez qui est premier, qui est parti, qui a pris la première position sur
Zarco.
Les 26 tours.
Zarco.
Enfin, un Français, Yoel Zarco. Zarco est premier. Et il a déjà à peu près une seconde avant sur le second. Alors attendez, je vais vous en passer la ligne. Ils sont en quart de rang ici, attention, pas un point bouclage du premier tour. C'est ici, c'est un folie au moment. Zarco, la vue qui est en rang, premier tour. Sur un second là, et le titre troisième.
Vas-y, reprends doucement, premier Zarco.
Alors Zarco, premier Zarco. Il a pris le meilleur départ. Et donc il a presque une seconde avance sur le deuxième, c'est Love. Et le troisième, c'est Lutis. Et Louis Roux aussi est 22e. Ça c'est pour nos petits Français. Alors Zarco premier et Laurie et Louis Roux aussi 22e. La température de l'air ici est de 27 degrés, vous imaginez.
Ah, il fait bon, hein, la miche. Ah,
27 degrés, la piste est à 21.
Et tu atterris à quelle heure?
J'ai une nature de sécurité pour atterrir bientôt, voilà. Très bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Vous savez que Joan Zarco est parti de la troisième place à la grille de départ. Il s'est craché dans les pognes hier pour pouvoir être sur la première ligne. Zarco toujours en tête avec 856 millièmes de secondes sur Love.
Et Folger et Rins, ils en sont où par rapport au classement? Parce que c'est quand même les principaux concurrents quoi, pour l'instant.
Alors Folger est 10e. Folger est 10e et Rins est 9e. Effectivement, c'est les principaux concurrents au championnat du monde au niveau des points.
Ouais, donc Zarco, Love, Lutti et Rabat.
Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose.
Ah non, dis pas ça. Non, non.
C'est toujours pas refoncé, en fait.
Deuxième passage.
Deuxième tour des motos 2. Zarco toujours en tête. Lutti, Love, Rabat. Alors, on a assisté donc à la remise des coupes pour la moto 3.
Oui.
Et, tiens, j'ai une remarque, j'ai une question à vous poser. Vous avez remarqué quelque chose sur le podium?
Bah oui, on a la télé, bien sûr.
Les trois pilotes, en fait, sont italiens.
Ah oui, c'est alors que vous y avez beaucoup d'Espagnols d'habitude.
L'un d'eux, c'est le team de d'un grand pilote en MotoGP.
Alors, il y avait qui
le team de Valentino Rossi.
Ah bon?
Fenetti.
Ah, Fenetti, oui, c'est dans son team, oui, effectivement, vers 46.
Oui. Alors, on a vu Valentino Rossi venir, donc...
Féliciter, d'accord. Son pilote, voilà. D'accord.
Donc là, je vous redonne un pointage donc sur la course. C'est toujours Zarco qui est en tête. Hein. Alors là, l'écart a un peu diminué entre Lutti, à 677 millièmes de seconde entre Zarco et Lutti. Rabat, alors Folger est en 11e position. Rins en 9e position.
Et Rabat qui remonte bien, a priori, qui est 4e.
Rabat est 4e, oui.
Alors Rabat est 4e, effectivement, 4e, ouais. Rabat. Ouais. Il a une seconde 907. Hein.
Ouais.
Une seconde 907 millième de seconde. Donc, voilà. Troisième passage ici. C'est la moto 2. Effectivement.
Alors... T'as fait tomber ton portable?
Tu vis la course en direct, hein, avec la Miche.
Lutti,
oui, Lutti qui a pris la tête.
Zarco deuxième. Non, il s'est pas fait dans le sac. Non, il rentre, c'est devant. Il y a une passe d'armes entre Lutti et Zarco, là, à la coupe d'Europe.
Magnifique.
Il est repassé devant,
effectivement. Ouais.
Zarco premier, Lutti deuxième. Love troisième, Rabat quatrième.
D'accord.
Rins toujours, parce que forcément au niveau du championnat du monde et des points, Rins et Folger, Rins 9e, Folger 11e. Zarco toujours premier, il a réussi à contrer l'attaque de Lutti.
Écoute Lamiche, merci pour ces impressions en direct.
Je vous ferai le petit commentaire dimanche prochain.
Voilà, d'accord, voilà. Ah oui.
C'est pas la peine, hein, t'en mets pas.
Parce que voilà, de toute façon... Il nous reste une minute avant le générique.
Attendez, il y a un troisième tour.
Le dernier tour en direct.
Allez, un dernier tour pour la route. Hein.
Attendez, l'écart s'est réduit entre Zarco et Lutti, là.
Ah oui, ils sont roues dans la roue.
Attendez, mais quittez pas l'antenne. Ils sont raccord devant.
Donc ils vont arriver devant la ligne droite. Ouais.
Non, dans deux secondes, ça y est. Je vous redonne un point, je vous fais un point vite fait. Et vous envoyez le générique. Voilà, ça y est. Zarco premier, toujours ici. Tac. Non. Lutti, non.
Ça va être chaud.
Merci la Miche.
Merci la Miche.
Merci d'avoir nous avoir fait partager ta passion en direct. Ah, tu nous feras un compte rendu dimanche prochain, ok? Merci.
Merci Miche.
Voilà, il y a déjà le générique, hein, vous entendez. Merci à nos invités, Nico, Baloum, Baloum, on va t'appeler comme ça.
On peut le dire, oui.
Hein, Claude qui a dû nous quitter entre deux. Hein, merci aussi à Nicolas Bonduel qui a bien voulu revenir sur sa participation aux 24 heures de Mans et à tous les invités qu'on a pu avoir par téléphone aujourd'hui. On vous dit à dimanche prochain. Un scoop, nous aurons des entrées à faire gagner, à offrir pour les coupes Moto Légende dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à nous écouter et à nous appeler. On vous donnera le numéro. On vous dit donc tous à dimanche prochain et attention aux autos sur la route.
Bon dimanche à tous.
Au revoir.